bonne léthargie aussi, parce que dans le temps des fêtes, il a pas scoré beaucoup, là.
Ouais. Non, ben, en fait, il y a quand même... ouais, c'est vrai, il y a eu un petit ralentissement pendant le temps des fêtes, mais on dirait que c'est repris, là, dans les derniers matchs, là. Mais on va y aller sur le 50 buts, j'en suis persuadé, Maître Bellemare. Si c'est pas 50 buts, ça va être entre 45 et 50, et l'année prochaine, ben, ce sera bel et bien notre pointeur de 50 buts.
Hey, j'ai passé... déjà 40 buts, ça serait bon, parce que je me souviens, il me semble, d'un bonnes années de Pacioretty. Il n'y a pas une année qu'il y a eu 39 buts. Il s'est presque rendu à 40.
Pacioretty, oui, je pense que oui.
Tu parles de 50 buts, là, mais là, même à 40, là, ça fait un sacré bail qu'on n'a pas eu un joueur à Montréal qui a compté 40 buts. Là.
Ben, je vais aller vous trouver ça tout de suite.
Ça fait très longtemps. Là. Chez le dernier.
Chez le Canadien, au niveau des buts, Pacioretty a compté 39 buts en 2013-2014.
Tu vois, ça fait déjà 10 ans. Je me souviens qu'il s'était rapproché du 40, mais on n'a même pas eu 40 buts à Montréal depuis 10 ans. Là. Écoute, ça c'est une des rares équipes dans la Ligue nationale qui n'a pas de scoreur de 40 buts à la fin de la saison. Il y a quand même quoi, 82 matchs par année?
Oui, effectivement. Maître Bellemare, j'ai pensé à vous ce week-end parce que je regardais un peu là, tout ce qui se passait là, dans l'actualité. Puis le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, même le gouvernement fédéral, puis certains autres gouvernements semblent avoir des petites problématiques parce qu'ils font pratiquement toute affaire avec la même firme, la firme McKinsey. Et on apprend bien entendu que McKinsey fait affaire aussi avec des compagnies qui fabriquent des vaccins. Christian Dubé qui était là hier pour essayer de défendre à la dernière minute McKinsey en disant que sans McKinsey, ça aurait été une toute autre affaire. Là, la COVID-19 au Québec, ça aurait été pire et que McKinsey, c'était comme la meilleure invention depuis le pain tranché. J'ai l'impression qu'on va avoir une commission d'enquête comme vous aviez vécu là, lors de la nomination des juges. Vous parliez souvent d'influence indue. J'ai l'impression que McKinsey fait beaucoup d'influence indue à l'intérieur des gouvernements, là.
Ouais, c'est assez intriguant, hein? Ah oui. On a l'impression que c'est une firme fantôme. On sait pas trop c'est où, on sait pas trop qui dirige, et on sait pas trop quel genre de relations les gouvernements ont avec ces firmes-là, mais je pense que c'est l'opposition qui demande actuellement qu'il y ait une commission d'enquête, ou en tout cas qu'on voit clair là-dedans, parce que quand on vote pas pour McKinsey, hein? On vote pour un gouvernement, oui. Et c'est sûr que toutes ces choses-là sont un peu intrigantes. L'influence des paragouvernementaux, des mandarins, des firmes d'informatique, des firmes de conseillers en relations publiques. Ben, effectivement, s'il y a des relations entre les vaccins, la firme, le gouvernement, alors qu'on sort d'une pandémie qui a quand même duré 2 ans, tout ça mérite d'être éclairci, je pense, dans l'intérêt du contribuable.
Parce que ça ressemble beaucoup à un gouvernement fantôme, là. Donc un gouvernement bien établi qui a été mis en place, qui fait affaire avec un gouvernement fantôme qui, eux, semblent avoir les meilleures façons de faire pour diriger un gouvernement. Mon problème n'est pas là, parce que tu sais qu'un gouvernement fasse appel au privé pour se faire conseiller dans tel ou tel domaine, c'est normal que tout le monde au gouvernement ne soit pas des experts en tout. Donc d'aller chercher les meilleurs experts au monde pour se faire conseiller, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Le trouble, c'est quand c'est bel et bien mentionné sur un contrat que McKinsey va signer avec le gouvernement, mais se refuse le droit de mentionner qu'ils font affaire, exemple, avec Pfizer. Ben là, t'as peu, là. T'es en train de conseiller le gouvernement du Canada d'acheter des vaccins, t'achètes à Pfizer, puis de l'autre côté, c'est toi qui négocies avec Pfizer pour vendre à divers gouvernements. Là, moi, j'ai un problème avec ça, là.
Ouais, il y a comme deux clients qui ça sent le conflit d'intérêts en plein nez.
Je sais pas.
Qui favorise là-dedans? Quelles sont les ficelles qui sont tirées? C'est sûr que comme tu dis, le gouvernement a besoin d'être conseillé, puis il peut pas être boss dans tout, puis on s'attend à ce qu'on soit bien géré, mais c'est toujours dérangeant de voir ce genre de firme-là, parasitaire, bien payé, qui développe une importance grandissante auprès d'un gouvernement. Ben, comme tu le sais, la CAQ vient d'être élue, là, c'est en octobre 2022. Ça fait pas longtemps, puis ils sont gros gens comme devant, puis je pense pas qu'ils puissent s'inquiéter de ça, mais Trudeau, de son côté, lui, pourrait peut-être l'être un peu plus parce que l'élection fédérale est plus imminente, là.
Oui, effectivement. Effectivement. Mais c'est ça, j'ai pensé à vous en fin de semaine quand je voyais ça passer, McKenzie, je me suis dit, bon, on va avoir le droit à une autre commission d'enquête. Ben oui. Puis on va peut-être avoir un autre Marc Bellemare qui va sortir puis qui va dire, non, ben, le gouvernement vous dit ça, mais voici ce qui se passe à l'interne.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, les commissions d'enquête, là, c'est toujours nommé par le gouvernement, hein. Oublie pas ça, là. La commission Johnson, dans le temps de l'effondrement des viaducs à Montréal, la commission Bastarache, c'est toujours des commissaires qui sont nommés par le gouvernement. Alors, c'est lui qui détermine le budget de la commission d'enquête, c'est lui qui détermine le mandat, c'est lui qui détermine le président, ses conditions de travail, son équipe de recherche. Et on a tendance à penser que ça penche toujours sur le même bord. Tu sais. C'est rare que le gouvernement va se retrouver piégé par une commission d'enquête. La plupart du temps, tu remarqueras, c'est toujours en sa faveur ou à peu près. Alors, même dans le cas de la commission Charbonneau, il y a eu une scission parce que tu avais Renaud Lachance qui était d'un bord, tu avais la juge Charbonneau, France Charbonneau, qui était de l'autre bord. Ouais. Fait que ça a fini en queue de poisson avec un rapport qui était divisé parce qu'il n'était pas trois, il était deux.
Puis,
Le troisième s'est décommandé.
Exact. Puis McKenzie, ouais, il était malade, je pense. Ça se peut-tu? Un homme de 70 ans autour?
Oui, puis ils ont fait exprès pour pas le remplacer, as-tu remarqué? Fait que là, il se retrouvait avec deux.
Ouais.
Puis comme le gouvernement était assez sûr de la position de M. Lachance, ça a comme tombé. Il était pas d'accord, fait que ça a fait un rapport à deux cerveaux, deux têtes, mais qui n'allaient pas dans le même sens.
Quelqu'un
les commissions d'enquête, pour faire attention, c'est pas toujours un miracle. Hein?
C'est fun
quand ça commence, mais souvent quand c'est fini, c'est pas favorable.
Je reçois des messages sur Messenger actuellement, puis by the way, si vous voulez nous texter, on est live le soir à 18h. 418-971-1021, 418-971-1021. On me dit, mais qu'est-ce que vous avez à reprocher à McKenzie? S'ils sont si bons, c'est la raison pour laquelle ils ont des contrats partout dans le monde. C'est le fait qu'ils travaillent sur les deux côtés. T'sais, ils travaillent pour l'intérêt des pharmaceutiques, puis ils travaillent pour le gouvernement aussi, puis le gouvernement fait affaire avec les pharmaceutiques. Et quand on dit que McKenzie est blanc comme neige, il faut faire attention, là, quelques perquisitions à travers le monde, dont en Europe, en France, où on les accuse peut-être de fraude fiscale. On a fait des petites perquisitions. Aux États-Unis, McKenzie a écopé d'une amende de 573 millions de dollars US pour régler un contentieux, c'est comme ça qu'on l'a appelé, sur les opiacés. On va verser ça aux autorités américaines parce qu'on leur reproche d'avoir contribué par des conseils aux géants pharmaceutiques à la crise des opiacés. Et ça, c'est rapporté par les médias américains. Donc, c'est 573 millions. Ils ont participé à cette fameuse crise-là qui a fait pour effet de doper les prix.
Ouais, quelques erreurs de parcours. Significatives.
Ben, on savait pas que les pharmaceutiques allaient bénéficier de tout cet argent-là.
Ouais, c'est ça.
C'est très drôle.
Mais c'est ça, c'est à la lumière de la pandémie, peut-être que
ouais.
Ça devient inquiétant. Mais dans quelle mesure ça a pu jouer? Mais le ministre Dubé a des explications à nous donner, puis le gouvernement aussi. Et de ce temps-là, c'est la grosse nouvelle. Puis je pense que les oppositions ont raison de se poser des questions puis de réclamer davantage de lumière, là.
Je vous ai texté dans les dernières minutes, je pense qu'il devait être autour de 17h45, 17h50, pour vous mentionner l'article concernant un motocycliste qui a malheureusement qui est malheureusement rentré dans un véhicule qui était sens inverse sur sa voie. Le motocycliste roulait entre, selon ce que les policiers mentionnent, entre 115 et 120 km/h dans une zone de 90, donc il était en excès de vitesse, mais comme il a foncé dans un véhicule qui était dans sa voie, eh bien là, on accuse le propriétaire du dit véhicule d'avoir été un peu irresponsable parce que lui, ce qu'il voulait faire en embarquant sur l'autre voie, c'était de sauver des canards. C'est pas la première fois que ça arrive au Québec, là. Souvenez-vous, il y a une jeune femme qui avait fait le même genre de geste, là. Elle était sur l'autoroute. Elle avait carrément immobilisé son véhicule sur l'autoroute pour laisser passer une famille de canards avec les petits bébés derrière. Puis il y a deux motocyclistes qui étaient derrière qui se sont tué parce qu'il n'avait pas prévu que la personne allait freiner aussi rapidement. Puis il y avait eu aussi un procès parce qu'on mentionnait qu'il y avait des intentions qui pouvaient être considérées comme étant criminelles, alors que la jeune femme, elle, ce qu'elle voulait au départ, c'était de sauver des canards, mais elle a malheureusement tué deux motocyclistes. Là, on se retrouve en cours avec un individu de 46 ans qui, lui, roulait à 18 km/h dans la zone de 90. Donc, il avait ralenti considérablement. Et en laissant passer les canards, il a empiété sur l'autre voie. et au même moment, c'était dans une courbe, au même moment, le motocycliste a perdu le contrôle de son véhicule. On parle d'un jeune homme, Félix-Antoine Gagné, 19 ans, qui avait suivi un cours de conduite à toute vitesse là, dans les dernières semaines. Et puis, c'est ça. Il a malheureusement fait un accident, perdu le contrôle de son véhicule et il s'est malheureusement tué. Comment ça que ça se ramasse en cours, toutes ces histoires-là, Maître Bellemare? Parce que au départ, c'était un accident. Là. L'individu, c'est un individu qui était bienveillant, 19 km/h, ralenti et malheureusement, il a embarqué sur l'autre voie. L'autre, de l'autre côté, roulait à 120 dans une zone de 90. C'était en excès de vitesse, là.
Oui, c'est ça, mais je pense que c'est ce que la défense va essayer d'exploiter. La mauvaise configuration des lieux, peut-être les mauvaises indications, le fait que le motocycliste roulait au-delà de la vitesse permise. La négligence criminelle, c'est le comportement téméraire et déréglé à l'égard de la vie d'autrui. Et à Québec, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une policière, je pense que c'est Mme Morin, hein, Isabelle Morin, si oui. Je me souviens bien de son nom, qui a été condamnée pour négligence criminelle, même si c'était une policière. Le juge a considéré qu'elle avait agi de façon avec négligence criminelle parce qu'elle avait coupé le chemin à M. Drolet, je pense que c'est Jason Drolet qui s'appelait le motocycliste.
En fait, pour faire une histoire courte à cette époque-là, c'était sur Laurentien. Laurentien était en réparation et à ce moment-là, ceux qui étaient direction nord se faisaient tasser sur direction sud, puis on délimitait les voies par des cônes. Et elle, elle s'est aperçue qu'il y avait une sortie qui était plus proche. Elle n'était pas dans un appel d'urgence. Elle a décidé, elle, de couper le chemin de l'autre voie sur l'autoroute. Puis malheureusement, c'est Jesse Morissette que vous m'avez dit, c'est ça?
Jesse Drolet.
Jesse Drolet arrivait, puis il n'avait pas prévu qu'il y avait un véhicule qui allait traverser sur l'autoroute de cette façon-là. Il s'est malheureusement tué. Là.
C'est ça. C'est sûr qu'il peut y avoir des situations où c'est carrément la configuration, la mauvaise signalisation ou le comportement de la victime qui peut avoir causé l'accident. Mais franchement, dans le cas dont tu me parles ici, la question des canards, là, le gars est à 17 ou 18 kilomètres dans la mauvaise voie. On parle là, de d'embranchement d'autoroute. Là. On parle d'endroits très, très fréquentés, à haute vitesse. Le gars n'est pas dans sa voie, il est dans la voie contraire où le motocycliste est censé être seul. Et là, je pense que, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, je pense que le monsieur, c'est un véhicule, c'est un F-150, c'est pas une Fiat, là. C'est un véhicule.
C'est un gros camion, puis il traînait une remorque. Là. C'est arrivé en juillet 2019. Le jeune circulait en moto sur la route 345 à Sainte-Élisabeth dans la Naudière. Puis l'accusé, lui, a bifurqué de la voie parce qu'il voulait contourner une canne, puis ses 6 canetons dans la courbe. Mais il s'est retrouvé en sens inverse. Et selon lui, c'était vraiment pas volontaire. Lui, ce qu'il regardait en voyant la courbe arriver, c'est si quelqu'un allait tenter de le dépasser par la gauche. Donc, il s'est tassé un peu par la gauche. Et là, malheureusement, le motocycliste est arrivé et a perdu le contrôle de sa motocyclette.
Oui, c'est ça. Alors, écoute, moi, je pense que la couronne a raison de persister. C'est un comportement qui est totalement inacceptable. Le motocycliste, lui, il s'attend à ce qu'il n'y ait personne dans sa voie. Il voit une espèce de monstre, là, un F-150. C'est un gros véhicule. Ça prend beaucoup de place. La remorque, puis mon gars s'en va en sens inverse du trafic, ça a vraiment aucun bon sens. C'est sûr que c'est pas une vache non plus là qu'il y a dans sa route, là. C'est pas un autre véhicule, c'est pas un arbre qui est tombé. C'est des cannes avec une canne avec des canetons. Là. T'sais, on parle quand même de gibier assez petit. À la limite, je sais pas, là, c'est pas criminel que de passer par-dessus une canne et des canetons sur une voie publique. Là. Si tu privilégies la survie de ces bêtes-là à la sécurité d'une personne qui roule sur une autre voie sur laquelle tu n'as pas d'affaire à être, je me demande ce que ça prend pour parler de négligence criminelle. À mon avis, on a ici un cas de patent. J'ai l'impression, je n'ai pas assisté au procès, là, mais le gars, il a des regrets. C'est sûr que c'est sympathique. Lui, il a des enfants, il a pensé à ça. Il était très émotif quand il témoignait. C'est certain qu'il y a des regrets. C'est certain que peut-être qu'il aurait changé un petit peu sa position s'il avait eu à le faire, Si c'est à refaire aujourd'hui, peut-être qu'il a réagi différemment. Ça s'est passé vite, c'est une question de secondes. Mais en même temps, c'est clair que quand tu es sur la voie publique, à l'envers du trafic, en partant, là, c'est de la négligence criminelle, à mon avis, parce que tu n'as pas d'affaire là. C'est dans le sens contraire. C'est des voies uniques. C'est pas des voies où ça circule dans les deux, c'est dans les deux sens. Là.
Je comprends. Alors, c'est que j'ai l'impression, quand je regarde le témoignage de l'homme, là, c'est que lui, il voulait bien faire parce qu'il savait qu'il y avait une courbe qui arrivait, puis comme il était avec sa remorque derrière, il se disait, ben si je me fais dépasser par la gauche, c'est clair et net qu'il va, que ça va peut-être être encore pire. C'est d'ailleurs ce qu'il a plaidé en cour aujourd'hui. Là, la couronne considère que lui a fait une erreur. Lui, il dit, ben j'ai fait une erreur, mais c'était une erreur de bonne foi, là. Mais tu sais, je pense que vous brisez le cœur à plusieurs personnes, là, incluant moi. Effectivement, tu sais, la meilleure des choses à faire sur l'autoroute, quand vous roulez à 100 km/h, si jamais il y a des canetons qui sont là, puis il y a des véhicules derrière, malheureusement pour les canetons, si vous n'êtes pas capable de les éviter, ils vont malheureusement perdre la vie.
Ouais, c'est le message qu'on doit retenir, que ce soit même un chat ou un n'importe quel genre de. C'est sûr que si c'est une grosse. Un gros mammifère, une vache ou un gros dindon de 2 mètres de haut ou un orignal, ça pourrait peut-être être différent parce que là, le juge pourrait dire, écoutez, vous avez voulu éviter de vous tuer vous-même parce que frapper un orignal à 100-110 km/h sur l'autoroute, tu risques de pas survivre, là. Alors, c'est que ça peut détruire non seulement le véhicule, ça peut détruire la personne ou les passagers. Alors, ça dépend, c'est toute une question de circonstances. La négligence criminelle, c'est le comportement téméraire et déréglé à l'égard de la vie d'autrui. C'est pas nécessaire que tu aies l'intention de tuer, tu sais, mais que tu aies c'est une série de faits qui font en sorte que tu as commis une erreur grave et que tu as manqué de jugement. Même si tu n'as pas eu beaucoup de temps pour prendre ta décision, tu as manqué de jugement. Alors, souviens-toi de cette histoire-là, là, l'autre cas des canetons dont tu as parlé tantôt. La femme, à ce moment-là, s'était immobilisée sur la voie publique et la motocyclette qui suivait, ou les deux motocyclettes, en tout cas, je pense que c'est un père avec sa fille, eux autres, ils ont frappé le véhicule qui était immobilisé sur la voie publique.
Oui.
Dans ce cas-ci, il n'est pas immobilisé, il va dans la voie contraire. Mais, à mon avis, il n'y a pas même de différence. Là. Puis, souviens-toi aussi de l'affaire de la policière Morin qui a été condamnée. Je trouve que c'est des situations qui se ressemblent beaucoup, mm-hmm. où la personne manque de jugement et cause le décès d'une personne innocente. C'est vrai que l'autre allait un peu vite, mais il n'allait pas non plus sans dans une zone
de 30,
là. Il allait c'est dans une zone où on s'attend à avoir un dépassement de vitesse. Il roulait 110, 115 dans une zone de 90. C'est pas non plus excessif, surtout qu'il prenait son élan, puis il était tout seul sur cette voie-là. Quand tu es tout seul sur ta voie, mais normalement, tu t'attends pas à avoir un F-150 dans ta face, là.
Mais c'est parce que moi, je suis un motocycliste, Maître Bellemare, là, puis quand je conduis sur la route, là, je conduis pour les autres, puis je conduis pour moi aussi. Là. C'est que mes distances sont des fois triplées. Quand je suis derrière un véhicule en auto, on dirait, puis je sais pas, mais en fait, je pense que oui, on est plus en sécurité quand on est dans un véhicule. Je vous dirais que c'est à peu près 3-4 longueurs de voiture. Quand je suis en moto, là, je peux facilement grimper à ça, à 6-7-8 longueurs de voiture quand je suis derrière un véhicule, pour être sûr et certain de me donner un temps pour réagir. Rouler à 115 dans une courbe, là, je trouve ça extrêmement téméraire. Cela dit, ça ne mérite pas la mort. Puis malheureusement, le jeune homme est décédé à l'âge de 19 ans. Mais j'ai l'impression que, tu sais, peut-être que le juge va prendre ça en considération. J'ai l'impression que les deux sont un peu dans le tort. T'sais. Il y en a un qui a manqué de jugement puis qui a empiété sa voie de gauche. Puis l'autre qui est dans une courbe puis il décidait de se mettre un genou à terre à 120 km/h pour virer d'une courbe. À mes yeux, à moi, les deux sont dans le tort. Quand on n'est pas prudent, ça se peut qu'il arrive des accidents. Dans son cas, lui, ça a causé la mort. Mais est-ce que ça mérite une sentence de prison? Je pense pas.
Ouais, ben tu sais, le gars, sur sa moto, lui, il n'aurait pas eu d'accident si l'autre n'avait pas été dans son chemin, là. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a, il peut y avoir une faute. Du fait qu'on dépasse la limite de vitesse, automatiquement, il y a une faute. Mais de se retrouver, franchement, avec ton gros Jean comme devant dans la voie contraire sur laquelle, normalement, c'est un sens unique, ça m'apparaît une erreur beaucoup plus grave. Parce que là, tu prends sciemment une voie qui est réservée à quelqu'un qui vient en sens contraire. C'est, mm-hmm. c'est pas rien.
Non, je comprends. C'est juste qu'on voit régulièrement ce genre de geste-là, des véhicules qui empiètent sur l'autre voie. Exemple, lorsqu'un véhicule est trop long puis essaie de tourner, on le voit régulièrement là, pour ce qui est des camionneurs. Eux, ils n'ont pas le choix d'empiéter sur l'autre voie pour se stationner. Puis si jamais il arrive un accident, je ne suis pas sûr que les camionneurs se ramassent en cour parce qu'ils devaient reculer leur van puis il y a quelqu'un qui arrivait trop rapidement, tu sais. En tout cas, on a hâte de voir la finalité de ce procès-là. Autre chose, Maître Bellemare, en début de semaine passée, je jasais avec Audrey, qui était ma co-animatrice sur l'heure du midi. On parlait de ce fameux cas là, d'homme sexomniaque, un individu qui se lève pendant la nuit. En fait, son corps se réveille, mais son cerveau ne se réveillerait pas. Et son pénis devient dur et automatiquement, ce qu'il veut, lui, c'est de faire l'amour à une femme. On parle d'un photographe qui a été déclaré non criminellement responsable parce qu'il y a eu un épisode de somnambulisme et il y a une personne qui a été victime de l'épisode de somnambulisme qui se considérait comme étant une victime. Dans ce cas-là, que le juge prenne en considération que la sexomnie, ça existe, c'est un problème de santé mentale, donc il va être non criminellement responsable, je trouve ça totalement absurde. Si quelqu'un a un problème d'alcool, quelqu'un qui est alcoolique, qui sait qu'il va aller chercher ses enfants à l'école, puis qui prend une bière avant de partir, ou deux, ou trois, ou quatre, puis il tue deux, trois personnes en s'en allant à l'école, ben, il était au courant de son problème, là. Puis malheureusement, il a décidé de boire quand même, il s'est ramassé sous sa route, puis finalement, ben, il a tué du monde. C'est la même chose. Lui, c'était pas le premier épisode de sexomnie qu'il avait, parce que son ex avait déjà mentionné qu'il y avait ce genre d'épisode-là. La nuit, il se réveillait, il était bandé, il voulait une relation sexuelle, puis le lendemain, il disait à son ex qu'il s'en souvenait pas. Mais à partir du moment où on sait qu'on a un problème, dormir avec quelqu'un qu'on veut pas agresser, c'est peut-être un manque de responsabilité, Maître Bellemare. Pourquoi le juge a dit qu'il était non criminellement responsable?
Ben, le gars qui prend un coup, là, puis qui est sous, puis qui blesse ou qui tue du monde, lui, il prend un coup. Alors ça, c'est formellement interdit d'invoquer ce genre de défense-là en vertu du code criminel.
Oui, mais c'est une maladie. Mais... L'alcoolisme, c'est une maladie. La toxicomanie, c'est une maladie, Maître Bellemare?
Ouais, c'est une maladie, mais t'es pas alcoolique, t'es pas sous si tu prends pas de boisson. T'es sous si tu prends de la boisson, mais si tu prends pas de boisson, t'es pas sous. Ouais, alors que la sexomnie... Oh. Moi, j'allais faire un tour sur Internet tantôt, ouais. Là. Puis il y a des sites de traitement. Et sur Wikipédia, on décrit la sexomnie comme étant du somnambulisme sexuel. Alors, le gars, il se réveille la nuit. Il est bandé. Puis il veut faire l'amour avec une femme. Dans ce cas-ci, c'est un viol qui a eu lieu.
Exact.
C'est admis. C'est clair qu'il y a eu un viol, une relation sexuelle non consentie. Tout le monde est d'accord avec ça. La question, c'est de savoir s'il est conscient de ce qu'il fait au moment où il agresse sexuellement cette femme-là. Et le juge a estimé qu'il n'était pas conscient. Il y avait là-dedans, là, un témoignage du gars. Il y avait une expertise psychiatrique qui est venue expliquer au juge c'était quoi la sexomnie. Il y avait le témoignage de son ex. Il disait que pendant les 5-6 ans qu'ils avaient été ensemble, il y a eu 15 épisodes à sa connaissance de sexomnie. Mais là, tu fais quoi quand tu es porteur d'une maladie comme ça?
Bien, Maître Bellemare...
Tu restes le reste de ta vie tout seul?
La femme avec qui j'ai passé 15 ans, 20 ans, qui me dit « Yann, t'as eu des épisodes de sexomnie, puis ça me dérangeait pas, c'était correct. » sachant ça, vous savez que du jour au lendemain, je dors plus avec mes enfants quand ils sont malades. Je dors plus avec une amie. Je dors plus avec mon cousin. Je dors plus avec ma cousine. En fait, je sais pas pourquoi je dormirais avec eux autres, là. Mais c'est un exemple que je vous donne. Sachant que vous avez un problème... Ben, vous invitez pas la personne à dormir avec vous, parce que ça se peut que vous l'agressiez, là. C'est plus là, mon point, de l'individu qui prend de l'alcool, parce qu'il est malade. Il prend de l'alcool, prend son char, pouf, il tue des gens. Lui, on l'envoie en tôle, certain, là. Mais là, l'autre qui sait qu'il est sexomniaque, là, parce que ça l'est fait reprocher souvent, qui accepte de dormir avec une femme, ben, il est tout aussi responsable que le gars qui est sous sa route, là.
Ouais, mais au moment où il a commis le geste, le juge a considéré qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Que c'est comme un peu un épisode de psychose ou une psychose d'intoxication, mais une psychose psychiatrique, un individu là qui n'est pas conscient de ce qu'il fait au moment où ça survient. Il y en a des fous là. Alors ça, c'est associé à une maladie mentale. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Mais le seul test que le juge doit appliquer, le seul et unique test, c'est de savoir au moment où le geste a été commis, est-ce que ce monsieur-là, Yannick Giguère, savait ce qu'il faisait. Et le juge a considéré que la preuve était prépondérante à l'effet qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Okay.
Puis le juge n'aurait pas pu prendre en considération qu'il était parfaitement au courant de sa condition puis accepter quand même de dormir avec une personne?
Non, il ne peut pas prendre ça en considération.
Ben ouais,
parce que c'est pas parce que le gars a un problème qu'il couche avec quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un, il y a une femme dans la maison ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas si c'était dans la même chambre ou dans deux chambres différentes.
Il était dans la même chambre. Mais il était dans le même lit, en fait.
Il était dans le même lit. Bon, alors le juge n'a pas à se demander si le gars savait qu'il y avait un problème. Il le savait certainement parce que son ex a dit qu'il y avait eu 15 épisodes pendant les 5-6 ans où ils avaient été ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment précis où le geste a été commis, il savait ce qu'il faisait. Puis c'est le seul et unique test qui doit s'appliquer. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il fait au moment précis où le geste est posé. Mais tu sais, dans le cas de Guy Turcotte, là...
Ouais.
Lui, il avait dit, j'ai pris du méthanol, puis je savais pas ce que je faisais quand j'ai tué mes deux enfants. Le juge a dit, c'est vrai, il savait pas ce qu'il faisait, selon la preuve psychiatrique, toxicologue, tout ça. Donc, il a été déclaré non criminellement responsable au début. La cour d'appel a renversé ça parce que Turcotte s'était auto-intoxiqué. Dans le cas de la sexisomie, là, c'est pas une auto-intoxication, c'est ça la différence. Si tu t'auto-intoxiques, puis qu'à cause de ça, tu n'es pas conscient de ce que tu fais, tu ne peux pas invoquer ça en défense. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas de l'auto-intoxication, c'est juste qu'il est conscient d'un état qui l'amène. C'est un peu comme quelqu'un qui est porteur de l'épilepsie ou, je ne sais pas, d'une maladie de cette nature-là, qui fait une crise, je ne sais pas, moi, tu fais une crise d'épilepsie, puis en tombant, en faisant ta crise, là, tu frappes quelqu'un. C'est des voies de fait, ça. Mais au moment où tu frappes quelqu'un, tu n'es pas conscient de ce que tu fais parce que tu es en pleine crise d'épilepsie. Ça ressemble un peu à ça.
Oui. Mais, Maître Bellemare, je vais juste...
Mais le juge Perrault, fais attention, là, le juge Perrault, quand il rend son jugement, il dit un instant, puis c'est précisé, en tout cas dans l'article de la presse, là, c'est bien précisé, le juge dit, arrivez-moi pas avec des cas de sexomie à plein, là. Ça prend une preuve très solide, comme quoi vous avez cette maladie-là, pour que ce soit appuyé par une preuve d'expert, il faut que ce soit documenté. Il faut que je sois convaincu que vous ne savez pas ce que vous faites au moment du crime. Mais c'est moi aussi, j'ai trouvé ça fort, là. Mais tu sais, écoute, en droit criminel, la défense fait preuve de beaucoup de créativité. C'est pas nouveau. Et c'est l'article 16 du Code criminel qui le prévoit. Il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. Puis dans ce cas-ci, ça s'ajoute à l'ensemble des conditions médicales qui ont été acceptées depuis 100 ans et qui permettent non pas un acquittement, mais non criminellement responsable. De sorte que ce monsieur-là se retrouve quand même sur le registre des délinquants sexuels pour les 20 prochaines années. Parce que le registre, lui, il accueille non seulement des condamnés, mais aussi des non criminellement responsables qui ont commis quand même un crime au moment où il n'était pas condamné.
Parfait. Donc, dans 3 ans, ce gars-là dort avec une amie à la maison, il l'agresse sexuellement, il est non coupable.
Il est non criminellement responsable.
Ça n'a pas de bon sens, Maître Bellemare. Je comprends que la justice, c'est la justice, puis il faut dire que le juge avait du jugement puis qu'il a bien vu, mais moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens parce que le gars est au courant de son problème, mais je comprends qu'on ne s'entendra pas sur ce dossier-là ce soir, ni même pour ce qui est des experts. Moi, quand on me parle d'un expert de la couronne puis d'un expert de la défense qui s'entendent pas sur le patient qui sont en train de jaser, des fois, j'ai l'impression que les experts sont pas mal plus des péripatéticiennes de service plutôt que de vrais experts. On s'en est déjà parlé. Moi, ce serait le juge qui aurait ses propres experts qui pourraient l'épauler dans les cas de maladie mentale ou dans les cas de ci ou de ça, dans lesquels le juge n'a aucune expérience, plutôt que l'expert de la couronne puis l'expert de la défense. Souvent, ça ressemble pas mal plus à des péripatéticiennes de service que d'autres choses.
Mais je ne sais pas ici si la couronne a présenté un expert. Il manque toujours des données. Ce qu'on nous rapporte dans les médias, c'est pas toujours complet. Mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est juste la défense qui avait amené un expert. En tout cas, moi, j'ai appris que la sexomie, ça existait, là. Puis sur Google, si tu cliques ça, là, tu vas retrouver beaucoup de documentation sur le phénomène. En tout cas, moi, je suis content de voir que ça existe. J'ai beaucoup de sympathie pour les victimes. J'en ai aussi pour les gens qui sont porteurs de ça parce que ça ne doit pas être facile à gérer.
Ah, je suis fâché, hein. Vous m'avez entendu, je suis fâché. Moi, quand je lis ce genre de cause-là, ça me répugne un peu, mais c'est le système de justice qu'on a, ça a l'air, c'est le meilleur au monde. Mais souvenez-vous, là, en Cour suprême, l'intoxication volontaire extrême, vous en souvenez-vous de ça? L'individu qui avait commencé à boire.
Ouais. Moi, je fais une différence entre intoxication. Mais moi, je connais des gens qui ont des problèmes de somnambulisme, là.
Ouais.
Des grands malheureux, hein?
Ben oui, sûrement.
Des gens qui se lèvent la nuit, là, puis qui se mettent à marcher. Il y en a qui sortent dehors, que ce soit dans les marches en plein hiver. Il y en a d'autres qui se couchent dans le bain, puis à un moment donné, le conjoint se réveille à 4 heures du matin, puis tout ce côté, puis s'en va chercher dans le bain. C'est un cauchemar, là. Vivre avec ça, là, c'est une condition, je sais pas comment les gens s'organisent, comment ils peuvent avoir une vie de couple, une vie familiale, même une vie sociale avec un problème comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est des grands malheureux, là, je sais pas, là. J'espère ne jamais être somnambule.
Non, on se le souhaite, mais tu sais, je veux revenir à la justice canadienne. T'sais, le cas d'intoxication volontaire extrême qui a été plaidé en Cour suprême, puis les juges de la Cour suprême ont dit « Ouais, c'est vrai, l'intoxication volontaire extrême, là, les individus sont pas au courant de ce qu'ils font. » Puis on parlait d'un individu dans ce cas-là, la cause précise qu'on avait jasé, vous et moi, c'était un individu qui s'était intoxiqué de façon volontaire extrême, puis qui avait battu une femme au point de la laisser handicapée jusqu'à la fin de ses jours. Et les juges ont dit « Ouais, c'est parce qu'il était pas au courant de ses gestes. » Je trouve que ça pue comme décision.
Ça pas de bon... Non, c'est sûr. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait qu'une personne qui se trouve intoxique ait quelques moyens de défense. Mais comme tu le dis, la Cour suprême est allée jusque-là. Mais la Cour suprême, depuis quelques années, la Cour suprême du Canada a été à plusieurs égards d'une grande générosité face aux accusés de crimes au Canada. Là, Alexandre Bissonnette, 25 ans pour avoir tué 6 personnes puis attenté à la vie de 6 autres... L'auto-intoxication volontaire dans des cas extrêmes, on parle de cas extrêmes, mais c'est quand même une nouveauté, parce que pendant des décennies, on appliquait le code criminel de façon à ce qu'une auto-intoxication ne soit jamais un moyen de défense. La Cour suprême est allée ouvrir des portes de ce côté-là. Alors là, ça, je sais pas cette affaire-là, si ça va aller en appel. Je penserais pas, la sexomie, mais ça vient s'ajouter à l'arsenal des moyens de défense que les accusés ont, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup, puis tu le sais, au Canada, mais c'est comme ça. Alors, on est... moi, je trouve qu'on a une justice qui est trop permissive. Dans ce cas-là, la sexomie, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Dans bien d'autres cas, effectivement, on devrait être plus sévère.
Oui, mais c'est que le gars doit prendre ses propres responsabilités connaissant son problème. T'sais, puis là, il y a des gens qui me disent « Ah, mais Yann, l'alcoolisme puis la sexomnie, c'est pas la même chose. » Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais dire que c'était la même chose. Je veux dire, vous êtes conscient de votre problème. Gérez-vous. Si tu sais que tu as des épisodes de sexomnie, si tu sais que la nuit, tu te réveilles puis tu as le goût d'avoir des relations sexuelles, ben tu dors pas avec tes enfants. Tu dors pas avec ta sœur. Tu dors pas avec quelqu'un sans la prévenir que ça se peut que pendant la nuit, t'aies ce genre de problématique-là. Tu sais, on prend pas de chance. C'est au niveau de la responsabilité.
Ben, même avec ta propre femme, là, compliqué, là.
Ouais.
Parce que une agression sexuelle de ta propre femme, ça peut exister. Il y a eu, moi, je me souviens quand j'étudiais à l'Université de Montréal dans les années 70. À l'époque, le code criminel prévoyait qu'on ne peut pas être accusé d'agression sexuelle sur sa conjointe. Mais maintenant, c'est possible. Alors, c'est ce que tu me dis là, c'est comme de dire à ces gars-là, ben, tu peux pas avoir de vie de couple parce qu'il pourrait agresser sexuellement sa propre femme. Peut-être même qu'il l'a fait, là, quand la fille a dit en 5-6 ans, ça est arrivé 15 fois.
Ouais.
Elle a pas noté toutes les fois. Mais si c'est arrivé 15 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été agressée elle-même à 15 reprises, parce que 15 épisodes de sexomie, ça veut dire 15 agressions, 15 relations sexuelles non consenties.
Oui. Ah non, alors, elle aurait pu effectivement considérer ça comme ça. C'est plus d'avertir l'individu qui dort avec toi que ça se peut que tu aies les mains longues, puis ça se peut que tu aies une érection, puis ça se peut que tu veuilles une pénétration. Il y a une question de responsabilité là-dedans, Maître Bellemare. Me permettez-vous de faire une courte pause, Maître Bellemare?
Bien sûr.
Il est 18h35. Je souhaite à tous un bon lundi, même si je suis fâché là, concernant cet épisode de sexomnie. J'ai l'impression qu'il n'y a, plus personne qui est responsable de rien. Puis je pense toujours aux victimes dans ces dossiers-là. On va faire une pause. 418-971-1021 si vous voulez participer à l'émission. Je rappelle que ce soir, comme à chaque lundi, on est avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST. C'est le site web qu'il faut consulter. Courte pause et on vient.
Alors que les prix augmentent partout, Normandin a décidé de faire le contraire. 5 populaires repas à 9,99 $ offerts dès 16h, dont la demi-lasagne, la salade thaï et le combo pizza. Valide en salle à manger et wine bar jusqu'au 12 février. Détails au restaurantnormandin.com.
Tout le mois de janvier, profitez de la grande vente annuelle d'Optiboutique Avenue Cartier. Obtenez de 10 à 70% de rabais sur toutes les montures en boutique. Des collections exclusives et distinctives qui sauront vous charmer. Prenez rendez-vous, certaines conditions s'appliquent. Optiboutique.com, 40 ans de vision unique.
Avec Smart Timer, fini les feuilles de temps papier. Smart Timer, c'est la meilleure application pour tous les secteurs de la construction. Gestion de feuilles de temps et partage d'informations de tous vos projets. Smart Timer, une entreprise entièrement québécoise. Demandez votre démo, c'est gratuit. SmartTimer.ca.
Vous êtes propriétaire d'un immeuble locatif résidentiel ou commercial et vous envisagez des travaux?
Confiez votre projet à Immotech Construction.
Une entreprise fondée sur des relations de confiance. Prix juste, travail de qualité. Pour une collaboration fiable et professionnelle, le choix est simple.
ImmotechConstruction.com.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger sans que vous ayez à vous casser la tête.
Et sans briser son cochon. IGA présente les valeurs sûres. Des produits essentiels de la cuisine à prix réduit.
Par exemple, du brocoli, du beurre d'arachide, des macaronis. En plus, on vous suggère des recettes chaque semaine à cuisiner avec ces produits-là. Comme ça, que vous soyez un chef
ou pas pantoute,
c'est facile de bien manger.
Sans se casser le cochon.
Repérez les produits valeurs sûres chez IGA. Cuisinez les recettes et économisez. Détails sur IGA.net.
Le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, événement phare à Québec, fait son vrai grand retour du 8 au 19 février 2023. Famille, sportifs, fans de hockey, c'est un rendez-vous au Centre Vidéotron et au Pavillon de la Jeunesse. Détails au tournoi-piwi.qc.ca.
Pour 2023, Exprotect Québec déménage et double sa superficie. Plusieurs opportunités d'emploi s'offrent à vous. Exprotect Québec est présentement à la recherche des meilleurs polisseurs d'aluminium. Contactez-nous pour postuler. Pour rester à l'affût des nombreux changements à venir cette année, suivez Exprotect Québec sur Facebook. Tapis Montmagny, c'est plus de 210 000 pieds carrés de couvre-plancher en inventaire. Céramique, bois franc et flottant, vinyle clic, tapis, habillage de fenêtres, literrerie et plus encore. Aussi service de designer intérieur et d'installation de couvre-plancher. Tapismontmagny.ca. Bien plus que du tapis.
Reprenez vos bonnes habitudes avec la fromagerie Bergeron. Essayez les savoureux fromages réduits en gras. Le 6 % le classique léger, le classique fumé léger et le seigneur de Tilly vieilli 18 mois. Une bonne source de protéines pour accompagner vos activités sportives. Trouvez les fromages Bergeron en épicerie.
Vous voulez réunir votre équipe de travail? Pensez au Village Nordique. Du 10 février au 12 mars, organisez une journée corporative unique en formule clé en main. Salle de réunion, pêche sur glace et 5 à 7 festifs. Détails et réservations au villagenordique.com.
L'équipe de Lévis Honda vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Pour le plaisir de conduire en 2023, offrez-vous un véhicule Honda neuf ou usagé. Magasinez directement de la maison grâce à notre plateforme en ligne, lévishonda.com. Lévis Honda, là pour vous depuis plus de 36 ans.
Vape Depot, la plus grande chaîne d'articles pour vapoteurs au Canada. Vapedepot.ca, plus de 45 magasins au Québec et en Ontario. Vapedepot.ca, un service de qualité supérieure. Visitez-nous sur le web pour savoir comment vous procurer nos produits au vapedepot.ca. Franchise disponible.
Allô, ma belle, c'est Catherine. Je viens juste d'apprendre qu'il va y avoir un méga festival de bulles au Vieux-Port en février. Il faut vraiment qu'on y aille. Ça s'appelle Bulles Whisky Gastronomie, puis apparemment, c'est le plus gros salon de bulles et spiritueux au Canada. Sur leur site web, bulleswhisky.com, ils parlent de 65 kiosques d'exposants, des restaurateurs, des DJ urban, puis même une compétition de mixologie. Sérieux, là, je me peux plus. Appelle-moi qu'on book ça avec les girls, OK? Bisous!
Bulles Whisky Gastronomie en février, une présentation Passe-Partout Bonne Chère et les prêts à boire au devis.
Boulevard 102, 100 % Québec, on vit pour le rock. Boulevard,
une propriété.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Thank you.
À tous un excellent lundi soir sur les zones de Boulevard 102 à Québec. On est avec Maître Marc Bellemare. Je me suis défâché pendant la pause, Maître Bellemare.
T'as pris une douche?
J'ai pris une douche, oui, oui! Ah, j'ai pris une douche. Ben, en fait, ici, dans les bureaux, c'est ce que je trouve très cool. Là. J'avais ça aussi chez mon ancien employeur. Une douche pour pouvoir faire deux chiffres en ligne. T'sais. Entre deux chiffres, aller prendre une petite douche ou peut-être aller faire un tour au gym puis après ça, venir me laver ici à la station. Mais prenons mon cas, exemple, Maître Bellemare, vous qui êtes un expert de la CNESST. Je suis en deux chiffres, donc je fais Marceau le midi de 11h30 jusqu'à 14h. Après ça, je fais un peu de recherche pour mon show le soir. Puis après ça, je me dis, ah, je vais aller prendre une petite douche. Puis après ça, ben, je vais être prêt, frais et dispo pour travailler. Les auditeurs dans leur voiture vont trouver que je sens bon. Si je me blesse dans la douche, est-ce que ça peut être considéré... Je glisse sur une barre de savon. Est-ce que ça peut être considéré comme un accident de travail?
Sans aucun doute. Si le patron fournit une douche, moi, au bureau, je n'ai pas de douche, OK? Mais si le patron fournit une douche, c'est parce que c'est utile, ça favorise la productivité, ça fait partie des outils de travail disponibles, accessibles aux travailleurs. Si tu te blesses, c'est considéré comme un accident de travail. D'ailleurs, il y a un juge, il n'y a pas tellement longtemps, qui a décidé dans ce sens-là. Je raconte l'histoire, ça se produit en 2021. C'est une dame qui est répartitrice téléphonique pour urgence santé.
Irène Zorzetti.
Alors, elle, de 8h à 4h du matin, elle répond au téléphone. Écoute, elle en reçoit, je ne sais pas combien de téléphones, peut-être 100, 150 dans un chiffre, là. Alors, le boss, pour éviter, j'imagine, tu sais, parce que tu es sédentaire, tu réponds au téléphone, tu es tout le temps assis devant un écran, il a fourni un pédalier en 2018. Donc, c'est un pédalier, ça permet à personne de bouger, de pédaler en même temps qu'elle répond au téléphone. Et c'est ce qu'elle faisait. Et à la fin du shift, tu comprends bien qu'elle a pédalé en masse. Alors, elle a quelques sueurs et elle a eu chaud et elle prend une douche. Alors, le pédalier est fourni par le boss. L'écran, le téléphone est fourni par le boss. La douche est fournie par le boss. Et tout le monde comprend qu'à la fin du shift, elle a eu chaud et elle prend une douche. Elle s'en va dans la douche, elle glisse parce qu'il y a du savon dans le fond, parce qu'elle se dit, ça se fait une entorse lombaire. C'est un accident de travail. Je comprends pas pourquoi le CSST n'a pas payé. Okay. Je comprends pas pourquoi ça prend plus que ça. C'est à partir du moment où les outils de travail sont défectueux ou un accident survient dans l'utilisation d'un outil de travail, si le patron considère qu'une douche c'est essentiel parce que la fille a le chaud, le pédalier, pour sa santé, pour éviter des phlébites, j'imagine, parce que quand tu es tout le temps assis, 8 heures de temps, tu peux développer des troubles vasculaires ou des troubles de dos, des troubles posturaux. Alors, pour éviter ça, il faut un pédalier. Alors, le tribunal, la CSST a décidé que c'était pas acceptable. Le tribunal administratif du travail a changé la décision dans une décision finale et sans appel. Et Mme Zorzetti va être indemnisée, même si ça y a pris 2 ans pour avoir son jugement final. Elle va finalement être indemnisée. Bravo. Okay. Alors, toi, dans ton cas, là, si tu te blesses dans la douche parce que tu glisses ou il y a un problème, c'est sûr que si ça arrive chez vous après ton chiffre de travail, c'est pas un accident de travail, mais si ça arrive sur les lieux du travail en utilisant un outil qui est à ta disposition, à mon avis, c'est très clair que c'est à l'occasion du travail que l'accident survient, donc la blessure doit être à la charge de la CNSST.
Moi, je suis un expert. Je vais en cours, là, je charge 1 500 $ de l'heure. Et là, je pose des questions à, je sais pas moi, à Mme Zorzetti. Là. Est-ce que la douche doit être absolument dans les bureaux ou elle peut être dans l'édifice? Et si elle est dans l'édifice, est-ce que ça change la donne?
Non, dans l'édifice, ça ne change pas la donne. Même chose, si tu, par exemple, tu te blesses en sortant de ton chiffre de travail puis tu glisses sur le parking de l'employeur parce qu'il y a de la glace, c'est un accident de travail. Parce que ce sont des lieux qui sont contrôlés par l'employeur, ce sont des lieux qui sont rendus accessibles par l'employeur. Et c'est clair que c'est un accident de travail, ça va jusque-là, mais ça dépend de chaque condition de travail est différente, chaque lieu de travail est différent. Mais si tu te blesses, par exemple, tu vas faire pipi, puis tu te blesses, tu glisses dans les toilettes parce que, je sais pas, moi, il y a quelque chose à faire, puis tu te fais mal. C'est un accident de travail. Les toilettes, ça fait partie des lieux de travail. Okay. C'est pas juste la fonction précise. La loi dit par le fait ou à l'occasion. Par le fait, c'est la fonction précise du travail. Le marteau, la scie, ça, c'est par le fait du travail. À l'occasion du travail, c'est une notion beaucoup plus large qui couvre ce genre de situations-là qui vont de façon un peu plus large, là, couvrir des conditions de travail de façon plus généreuse. Okay. C'est pour ça que la douche fait partie des conditions de travail ici. L'employeur qui plaidait contre la travailleuse disait que c'est un privilège, la douche, que c'était pas un droit. Mais là, écoute, ça pédale toute la journée, elle a chaud, la fille, puis l'employeur fournit une douche pour pas que ça sente le swing. Ça commence à ressembler à une condition de travail. Moi, je pense que dans ce cas-ci, c'était indiqué. Je ne dis pas que dans tous les cas, ça le serait, là. Mais dans ce cas-ci, ça m'apparaissait clair parce que la douche, elle la prend parce qu'elle pédale toute la journée.
OK. Et si l'employeur fournit un gym à même l'entreprise, est-ce que la personne se blesse au gym? C'est de la CNSST?
D'après moi, oui. Ben, même les parties de Noël, là, les parties de Noël, les parties de Balmol organisées par le boss.
Oui, les parties de Noël surtout. Hein, c'est parties de Noël, c'est une SST. Ma langue est accidentellement rentrée en contact avec la langue de ma collègue.
Ouais, c'est ça. Tout est une question de contexte, là, mais les parties de bureau, c'est la responsabilité de l'employeur aussi. Toutes les activités, même les activités qui sont... marginales ou qui sont ludiques, conviviales, récréatives. Le patron, en autant que ça a été fait, que ça a été géré par l'employeur, que ça a été organisé par l'employeur et que ça profite à l'employeur dans le sens que ça favorise la collégialité, ça favorise le bon climat de travail, ça augmente la productivité. C'est très clair que c'est un accident de travail. Je te dis pas que c'est tout est acceptable. Mais ces situations-là le sont et il y a beaucoup de jugements qui sont vus dans ce sens-là au cours des dernières années.
Mais la CNSST, on envoie beaucoup d'argent là, là.
Oui, on envoie beaucoup d'argent là, puis ça coûte cher. Puis c'est pour ça que les boss contestent, parce que les cotisations, chaque année, il y a à peu près 100 000 employeurs au Québec qui cotisent à la CNSST. Les travailleurs ne cotisent pas, c'est les employeurs qui cotisent. Et quand le cas est accepté par la CNSST, l'employeur peut contester devant le tribunal en disant « vous n'auriez pas dû accepter ». Il y a un tribunal d'appel qui vérifie chacune de ces décisions-là. Puis il y a des employeurs qui sont assez sur le bout de leur chaise pour contester, là, les municipalités, les hôpitaux, les CIUS, les CPE. Je vais te dire une affaire, si tu te blesses dans ces entreprises-là, attache ta tuque parce que ça va être contesté. Ils contestent presque toutes les décisions. Des fois, ça devient abusif, là, mais le droit est très clair. Les employeurs ont le droit de contester toutes les décisions qui sont rendues et qui favorisent leurs travailleurs après un accident.
Maître Bellemare, je vous parle d'une histoire cauchemardesque maintenant. Une voyageuse, une grande voyageuse, une résidente de Québec du nom de Mélanie qui a été dans un tout-inclus. La plupart du temps, les tout-inclus sont sécuritaires. Moi, je parle du Mexique, là. On me dit que les tout-inclus à Cuba sont sécuritaires. Bon, ça, c'est correct, ça se peut être tout-inclus. Mais bref, Mélanie a été à Cuba et son voyage a tourné au cauchemar parce qu'elle aurait pris des drinks dans lesquels on aurait mis une substance chimique particulière qui aurait eu des effets néfastes sur sa santé. Et ça m'a fait penser... Souvenez-vous des deux sœurs, Audrey Bélanger et Noémie Bélanger, qui ont été en Thaïlande et dans leur drink, on avait mis des pesticides, ça les avait tués.
Oui, mais c'est ce qu'ils avaient mis dans le... Ce qu'ils avaient tué, c'était une espèce de poison à rats qu'ils mettaient en dessous des lits, dans la chambre où ils ont couché. Une espèce de poison là pour tuer les insectes, la vermine, tout ça. C'est ça qu'ils avaient intoxiqué, ouais. Et puis les deux filles sont décédées. Mais l'histoire d'intoxication de Mélanie, c'est intéressant parce que elle a été chanceuse parce que l'intoxication a eu lieu très peu de temps, la veille de son départ. Les symptômes ont commencé à apparaître davantage à l'aéroport de Cuba, un des aéroports de Cuba, je pense qu'il était à Cayo Coco. Et dans le vol, c'était l'enfer. Des gens qui l'ont secouru, puis elle s'est finalement présentée à l'urgence au Québec le 7 janvier 2023. C'est à ce moment-là que le médecin a dit « ça ressemble à du GHB, ça ressemble à la drogue du viol ». Alors, moi, ce que je veux soulever ici, parce que dans l'article du Soleil, on n'en parlait pas, mais ça constitue un acte criminel. Intoxiquer quelqu'un au GHB, c'est un acte criminel. Alors, si la personne est capable de prouver qu'elle a été intoxiquée à Cuba, même si ce n'est pas au Québec, depuis octobre 2021, les victimes d'actes criminels sont payées, peu importe l'endroit où le crime a été commis. C'est une nouveauté dans la nouvelle loi de l'IVAC. Ce n'était pas le cas avant octobre 2021, mais si vous êtes victime d'un acte criminel hors Québec, partout dans le monde, depuis octobre 21, vous avez le droit d'être indemnisé. C'est juste ça que je veux dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas mentionné dans l'article du Soleil, et je trouve que c'est très, très important que ce soit mentionné, parce que C'est sûr qu'il peut y avoir des séquelles temporaires. Tu peux mal filer pendant une couple de semaines. Mais si tu manques du travail, tu as le droit d'avoir une indemnité de remplacement de revenus. Si c'est une incapacité, des fois, ça peut être durable. Tu peux être intoxiqué et garder des séquelles permanentes de ça.
Oui, mais dans le cas des deux sœurs Bélanger qui ont été intoxiquées en Thaïlande, là, c'était, les filles prenaient des drinks, puis les barman, on n'a jamais eu la suite de tout ça, mais les barman mettaient du Dietz dans les drinks pour pouvoir avoir le même effet que l'alcool. Puis les pauvres filles, ça les a tuées. Dans son cas, elle, Mélanie, elle mentionne qu'elle a eu les pieds enflés pendant plusieurs jours, elle avait de la difficulté à marcher. J'ai jamais entendu dire que le GHB fait ce genre d'effet-là là, par la suite. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose là, que très peu de parents savent aujourd'hui. Il y a des jeunes qui s'intoxiquent eux-mêmes au GHB parce que la fiole coûte 5$. Ils passent une soirée somme toute, est agréable pour la plupart quand ils sont capables de se doser. À savoir quel produit chimique qu'il y a là-dedans, c'est une autre histoire. Mais les gens s'intoxiquent eux-mêmes. Puis quelquefois, quand on parle au service de police de la Ville de Québec, on nous mentionne que dans la plupart des cas, les filles qui disent avoir été victimes là, de GHB, là, souvent, c'est des jeunes filles qui l'ont pris volontairement, qui n'ont pas été capables de se doser, puis qui se ramassent au poste de police parce qu'ils savaient plus vivre en société.
Oui. C'est bien possible. C'est bien possible qu'il y ait de l'auto-intoxication aussi là-dessus. Mais quand tu réclames à IVAC parce que tu dis que tu as été intoxiqué, c'est une question de preuve. Ils vont te demander, es-tu parti en voyage, t'as-tu fêté, etc., t'as-tu eu des symptômes. À ce moment-là, souvent, c'est le médecin ou le toxicologue qui l'a reçu à l'hôpital qui va dire, bien écoutez, oui, les prises de sang sont pas concluantes parce que l'intoxication datait de plusieurs jours. Mais les symptômes s'apparentent à ci ou à ça avec la littérature, un extrait d'un volume qui va documenter l'auto-intoxication au GHB, parce qu'à ce moment-là, IVAC va indemniser. Là. Mais c'est important que les gens sachent que depuis octobre 2021, peu importe l'endroit où tu es victime d'actes criminels, tu as le droit d'être indemnisé. Parce qu'avant octobre 21, il fallait que le crime ait été commis au Québec. Et il y a une femme dont j'ignore le nom. Je pense qu'elle était candidate pour la CAQ en 2018. Elle n'aurait pas été élue, je pense. C'est une mère de famille dont la fille a été assassinée à San Francisco. Et elle n'a jamais pu être indemnisée pour le meurtre de sa fille. Elle a fait toute une cabale. Puis finalement, le gouvernement a donné raison en modifiant la loi sur l'IVAC en octobre 21.
C'est la députée. Alors, Stéphanie Lachance.
Bon, OK. Alors, si vous êtes... Moi, je pense qu'elle était dans Bellechasse. Hein, ça se peut-tu, elle était candidate là-bas, en tout cas, dans la Rive-Sud de Québec. Alors, si vous êtes victime d'un acte criminel en voyage, parce que c'est ce genre de situation-là, c'est pas exceptionnel, des agressions sexuelles survenues hors Québec, dans des tout inclus, un peu partout dans le monde, surtout dans le Sud, vous êtes victime d'une agression, à ce moment-là, vous êtes déjà couvert en cas d'accident d'auto depuis 78 partout dans le monde, mais maintenant, c'est le cas pour les victimes de criminels partout dans le monde au Québec. Alors, dès que vous arrivez au Québec, vous faites votre réclamation, puis ils vont vous payer. S'il y a des frais de psychologue, des frais de perte de revenus, des frais de médicaments, à ce moment-là, ça pourrait être payé par IVAC.
On termine avec ça.
Indemnisation des victimes de criminels.
On termine avec ça, Maître Bellemare. Je ne sais pas si vous avez lu l'article là, que je vous avais envoyé. L'aide sociale qui réclame à un individu qui a été agressé sexuellement de l'argent parce que, comme il a poursuivi son agresseur et a obtenu un montant d'argent, ben on considère qu'il n'aurait pas eu le droit à l'aide sociale. Il faut dire que l'individu, c'est quand même... C'est un bon quotient intellectuel, là. C'est un gars qui était en actuariat, puis son rêve à lui, c'était de devenir médecin. Mais malheureusement, toutes les agressions ont fait en sorte que plus tard, ben, il y a des épisodes de schizophrénie qui sont arrivés. L'individu est incapable de travailler. Sa victime, son agresseur, pardon, c'était Mario Lajoie, qui était son professeur de karaté quand lui était jeune. Il l'a de multiples reprises agressé sexuellement et a obtenu une sentence de seulement 6 mois de prison. Mais aujourd'hui, ce pauvre homme-là qui vit de l'aide sociale, son nom c'est Donald Gilna, qui a 47 ans aujourd'hui, lui a obtenu un peu d'argent. Il n'a pas obtenu le montant total, là. Je pense qu'on lui avait versé. Le tribunal civil lui avait permis d'avoir 225 000 piastres de son agresseur et finalement, bien, il a obtenu juste 24 000 $ du montant dû. Puis après avoir payé ses avocats de l'époque, bien, il reste 16 624 $ et l'aide sociale lui réclame 5 000 piastres. parle d'un individu qui aujourd'hui est incapable de travailler puis qui vit de l'aide sociale, une victime d'une pourriture. Et le ministère du Revenu dit « Non, non, nous autres, on t'a donné cet argent-là, puis t'en as eu en supplémentaire, fait que tu nous l'as doué. »
Ouais. Ben, je me souviens, moi, il y a une trentaine d'années, les dossiers, par exemple, quand on réglait des affaires de CNESST, s'il y avait, par exemple, du remplacement de revenus, il devait rembourser l'aide sociale. S'il avait reçu de l'aide sociale pendant la même période où le remplacement de revenus était payé par le CNESST. Mais pour les séquelles permanentes, je sais pas, moi, tu as perdu un doigt dans l'accident, tu as perdu un œil dans l'accident, l'aide sociale ne recouvrait pas. Mais aujourd'hui, ils ont changé la loi. Et toute forme de revenu, souvent c'est des revenus rétroactifs, tu sais. C'est sûr que si ça prend l'aide sociale pendant 5 ans, au bout de 5 ans, tu obtiens un jugement d'une cour, peu importe laquelle, civile, CNSST, SAAC, peu importe, qui va te donner 150 000 $ de rétroactif, il faut que tu rembourses l'aide sociale. C'est comme ça. C'est sûr que ça peut paraître, tu sais, dans certains cas, ça peut paraître excessif. Et d'ailleurs, ce monsieur-là peut faire une demande au ministre. C'est le ministre de la Sécurité Solidarité sociale qui s'occupe de l'aide sociale au Québec, qui, lui, peut annuler une dette. Mais la loi, telle qu'elle est, à moins que le ministre intervienne dans des cas très exceptionnels, la loi est claire sur le fait que si tu as eu des indemnités qui couvrent une période de temps où tu as eu de l'aide sociale peut te demander de rembourser en totalité ou en partie. Si tu as reçu juste 30 piastres par semaine, tu vas rembourser 30 piastres par semaine. Mais ils sont pas obligés d'aller chercher tout le montant. Encore faut-il que ça corresponde aux sommes que tu as reçues par l'aide sociale pendant la période où tu as reçu de l'aide sociale. Ils peuvent pas aller au-delà de ça.
Tu sais, puis en même temps, il y a l'individu sur l'aide sociale, pas capable de travailler. Je connais pas les montants, mais c'est pas des individus qui vivent d'une grosse richesse là, à chaque mois, là, s'il est en logement.
À peu près 1000 piastres. À peu près 1000 piastres. Ouais. Mais ça dépend si tu as des enfants aussi. Mais une personne inapte au travail, c'est à peu près 1000 piastres. Une personne apte au travail, c'est à peu près 600. C'est pas des gros montants. C'est non. Sûr que t'as pas un gros loyer. T'as pas un gros logement pour ce prix-là, puis t'as pas un gros char. Ça, c'est certain.
On parle de quelqu'un qui s'est fait. On parle de quelqu'un qui avait un bel avenir devant lui puis qui a rencontré un prédateur sexuel. En tout cas, bref, je trouve que des fois, le gouvernement n'a pas d'âme.
On est stiff, hein? Ouais. C'est ça?
Ouais. On est stiff, comme vous dites. Des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, c'est ce que vous traitez à votre cabinet d'avocat, belmoreavocat.ca?
Oui.
C'est toujours un plaisir. Est-ce que vous allez être de retour avec moi en studio bientôt? Je commence à m'ennuyer tout seul, là, le soir.
Oui, ça s'en vient, Yannick. Là. Je m'en viens en courant.
Ben oui. J'aime ça, vous côtoyer, Maître Bellemare, puis les auditeurs apprécient vraiment votre présence sur les ondes de Boulevard à Québec le soir.
Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir, un beau rendez-vous. J'aime bien ça.
Maître Bellemare, merci.
Parfait. Bonne semaine à tout le monde.
Bye-bye. Bye. Bonne semaine. Même chose, bonne semaine à tout le monde. Nous, on se rejase demain à 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi. Et par la suite, ce sera Marceau le soir à partir de 18h où j'aurai le plaisir d'accueillir Louis Mascotte demain pour 60 minutes. C'est qui Louis Mascotte? Ah, suspense. Tapez son nom sur Google. C'est le gars des Géolagons. Ben oui. Puis il fait plein d'autres choses aussi. Donc, on va placoter pendant une heure. Un gars extrêmement intéressant. Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. S'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez sur Messenger. Je suis très réceptif aux messages. Puis, dans la plupart des cas, je réponds à tout le monde. Salutations. Bye-bye. Merci.
Marceau, le soir.
Le tournoi international de hockey Pee-wee de Québec, événement phare à Québec, fait son vrai grand retour du 8 au 19 février 2023. Famille, sportifs, fans de hockey, c'est un rendez-vous au Centre Vidéotron et au Pavillon de la Jeunesse. Détails au tournoipeewee.qc.ca.
Hey, c'est Origine Auto. On se sent généreux en ce début d'année. On a décidé de t'offrir un conseil voiture. En 2023, laisse faire ton oncle Gino Camaro et confie tes projets de carrosserie à des professionnels. Origine Auto, 418-952-9552. Suis-nous sur les réseaux sociaux.
Réalisez le projet dont vous rêvez depuis longtemps, celui de rénover votre cuisine avec Armoire Orléans. Salle de bain, cuisine, projets spéciaux, Armoire Orléans crée des concepts uniques sur mesure pour des espaces qui vous ressemblent. Prenez rendez-vous armoire avec un S, orléans.com. Hé, j'ai un secret pour toi. Volkswagen Saint-Nicolas a une vingtaine de Tiguan en inventaire et prêt à partir. Si j'étais toi, je le réserverais maintenant. Ça clique avec Saint-Nic. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, mais tch,
c'est notre secret.
Les implants dentaires sont une solution permanente. Le docteur Steve Bernier, spécialiste et expert en implants dentaires, utilise les technologies les plus avancées pour une intervention précise et rapide. Consultation sans frais, financement sur place. Docteur Steve Bernier, 88-835-5858 ou au drstevebernier.com.
La Vap Shop, pionnière dans le domaine du vapotage depuis 2012. Pour tous vos besoins en vapotage, visitez la Vap Shop du 603 rue Saint-Jean, du 1485 chemin Sainte-Foy ou du 1800 industriel à Val-Bélair. Joignez-vous à notre équipe. Envoyez votre CV à carrière@commerciallavapshop.ca.
En participant à une étude clinique chez Cineos, vous contribuez à la médecine de demain. Mais surtout, vous pouvez le faire tout en travaillant ou en poursuivant vos études à distance dans nos installations spécialement conçues pour répondre à vos besoins. Vous avez entre 18 et 55 ans, n'hésitez pas à nous contacter et vous serez guidé dans toutes les étapes par notre équipe qualifiée. Recevez jusqu'à 9 000 $ en compensation. Impliquez-vous. GoCineos.com.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Boulevard 102.1. 102.1. On est capable de vous parler de presque tout.
Moi, je suis parti dans ma tête à imaginer quel genre de scandale on ferait éclater dans un mariage, chacun de nous trois.
Pour le reste, on s'est entouré de pros qui connaissent leur affaire. Quand il est question d'économie, de politique ou de brou, on préfère laisser le micro à...
C'est un timing parfait pour faire le point. Sylvain Légaré est avec nous autres. Salut Sylvain.
Salut Sly.
Oh yeah. Sly. Sly.
C'est le docteur en économie Francis Gosselin.
Hey, le chum Phil s'est installé.
Boulevard 102.1. C'est plus que du rock.
Après des festivités mouvementées à voyager dans la parenté, le temps est venu de voyager pour vous reposer. Contactez Voyage 737, une équipe de conseillers expérimentés pour vous guider dans le choix de votre destination vacances.